Et les matins débutent avec le journal de Benoît Bouscarel que je salue. Bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les brutes, les voyous, l'ultra-gauche et les ultra-jaunes. Le gouvernement n'a pas retenu ses coups hier, ni ses mots, pour tenter de contrer le regain de mobilisation des gilets jaunes à l'occasion du premier anniversaire de leur mouvement. Une mobilisation, cela dit, restée en deçà des espérances des manifestants qui visent désormais la journée du 5 décembre. On y revient dès le début de ce journal.
30 milliards d'euros de dette pour les hôpitaux publics en France, une dette qu'il faudra bien réduire. Et voilà peut-être une piste pour le gouvernement qui cherche à éteindre la colère des hospitaliers. Hier, Bruno Le Maire s'est dit favorable au rachat de cette dette par l'État. Explication de Laurent Kramer.
Le Congrès national des maires de France s'ouvre aujourd'hui, alors même que le projet de loi Engagement et proximité arrive en débat à l'Assemblée nationale, avec pour objectif affiché de faciliter la vie des maires et d'enrayer la crise des vocations des élus locaux. Rosalie Lafarge.
9 morts depuis vendredi en Bolivie, où un décret pris par la présidente par intérim autorise la participation de l'armée dans le maintien de l'ordre, tout en l'exonérant de responsabilité pénale.
Ce qui suscite un tollé, nous irons en Bolivie dans ce journal retrouver notre correspondante à La Paz, Alice Campagnol. Et puis, on joue et tant pis pour la planète, alors que Google lance cette semaine Stadia, son service de jeux vidéo en streaming sur le cloud, très gourmand en énergie et en ressources. Question sur l'inconséquence des géants de l'internet en matière environnementale. À 7h12, la question du jour, Guillaume.
Est-il possible d'encadrer la reconnaissance faciale? On posera la question à un professeur de droit à Paris 8, Bertrand Varusfel.
A tout de suite. De nombreuses blessures dues aux affrontements avec la police, notamment à Paris. 13 gardes à vue, toujours en cours au dernier pointage. D'importantes dégradations, notamment place d'Italie, où le monument du maréchal Juin a été dégradé. Et les mots très durs du gouvernement, on va y revenir. Voilà ce qui reste du week-end anniversaire des Gilets jaunes, avec aussi ce chiffre de 28 à 30 000 personnes mobilisées samedi, d'après le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation clairement en dessous des espérances des manifestants, même si pour Sébastien, Gilets jaunes originaires de Caen et rencontrés par Léa Dubost de France Bleu Normandie, le mouvement repose sur une colère légitime et durable, car plus que jamais d'actualité.
On sent bien qu'il y a une colère qui monte à tout niveau. C'est pas que les gilets jaunes en soi, c'est tout le monde, c'est les enseignants, c'est les infirmiers, c'est même les médecins. Enfin, tous les corps de métier se plaignent. Il y a quelque chose qui va pas. C'est un mal profond qu'il faut revoir. On attendra de voir ce que le 5 décembre va donner. Parce que je pense que ça peut être un début de quelque chose qui peut être très grand. Je pense que si les routiers se mettent dedans et qu'on arrive à mettre les agriculteurs avec, les enseignants, le monde médical, je pense qu'on peut, là, à partir de là, on peut bloquer l'économie. Et là, les gilets jaunes reviendront, c'est là qu'on pourra peut-être dire, bon, bah, allez, on retourne le pays et on refait les choses pour le peuple.
Alors face à ce qui ne semble pas avoir été un retour éclatant des Gilets jaunes, mais qui constitue tout de même un regain de mobilisation inscrit, on vient de l'entendre, dans la perspective de la journée du 5 décembre, le gouvernement a voulu se montrer très ferme hier. Les éléments de langage distillés dans les médias relevaient d'un champ lexical choisi entre voyous, brutes et ultra-jaunes. Adrien Palluet.
Hier matin, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, dénonce les violences de la veille. Elle est suivie par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, invité d'Europe 1.
Hier, il y avait à la fois des gens qui viennent de l'ultra-gauche, dont certains sont connus, et puis il y a aussi ces ultra-jeunes radicalisés au fil des semaines qui portent le fer et qui aujourd'hui s'organisent comme cela.
L'ultra-gauche, un terme lourd de sens, symbole d'une posture politique risquée pour le gouvernement, selon le sociologue Jean-Michel Denis.
J'ai l'impression que chacun est dans son rôle. C'est quand même du rôle des pouvoirs publics d'assurer la paix sociale, entre guillemets, et de dire qu'ils vont tout faire pour l'assurer et de critiquer les mobilisations lorsqu'il se passe des événements un petit peu violents. Si la réponse gouvernementale se réduit à une simple critique à l'égard des manifestants pour leur violence, il y a fort à parier que ça continue dans le temps.
Une posture qui éclipse aussi les disparités du mouvement. Emmanuelle Rungaut est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier. Elle mène une enquête sur les gilets jaunes depuis le début du mouvement et elle était sur un rond-point ce week-end.
On a vu que c'était un mouvement très hétérogène qui ne pouvait pas du tout se résumer à l'ultra-gauche, même si on n'a pas tout à fait la même population en rond-point en manifestation. On a des gens qui ont des rapports aux politiques très différents, qui se situent souvent pas sur l'axe gauche-droite et quand ils se situent, ils peuvent se situer à gauche comme à droite, souvent pas au centre en tout cas et pas à la République en marche, c'est certain.
Quant à savoir s'il y aura une convergence des luttes lors de la mobilisation du 5 décembre prochain, sociologues et politologues n'ont pas de réponse.
Adrien Paluet, alors en attendant d'y voir plus clair dans les prochaines semaines sur cette journée de contestation autour de la réforme des retraites le 5 décembre et dans la crainte de voir s'opérer la fameuse convergence des luttes, le gouvernement va s'atteler au sujet qui fâche les uns après les autres. Frédéric Vidal, qui rentre aujourd'hui d'un voyage en Antarctique, va devoir se pencher sur la situation sociale dans les campus après la tentative de suicide il y a 10 jours d'un étudiant de Lyon 2. Elle pourrait faire des annonces. Alors que de son côté, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'a pas exclu hier une reprise de la dette des hôpitaux publics. Annonce faite alors que le gouvernement doit présenter après-demain un plan d'action renforcé pour l'hôpital. Laurent Kramer.
Avec un établissement sur deux aujourd'hui en situation de déficit, l'hôpital public ne peut plus avancer. Ses 30 milliards d'euros de dette entravent l'hôpital au quotidien. Dans son fonctionnement, les taux d'intérêt élevés contractés par les hôpitaux qui n'ont jamais été renégociés forcent à rogner sur les salaires et les investissements. Un cercle vicieux qu'il faut stopper, reconnaît le ministère de la Santé, mais pour autant endosser ou renégocier toute ou partie de la dette de l'hôpital public n'aura d'effet qu'à 9 ou 10 mois, explique Bercy. La dette n'est donc qu'un moyen pour redonner des marges financières. Il faut aussi des mesures à court terme. Mais l'État est aujourd'hui capable de s'endetter à taux négatif sur les marchés. Reprendre cette dette à son compte ne changera rien non plus aux critères de Maastricht. Laisser les comptes de l'hôpital public s'enfoncer ainsi depuis des années sous le poids des intérêts de la dette est donc absurde, concède une source à Bercy.
Le début aujourd'hui du congrès des maires de France coïncide avec l'arrivée à l'Assemblée nationale du projet de loi Engagement et Proximité, censé répondre notamment à la crise des vocations depuis longtemps constatée chez les élus locaux. À l'approche des élections municipales du mois de mars, ce texte a été adopté à l'unanimité, moins 2 voix au Sénat, puis à l'unanimité par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il entend faciliter la vie des maires qui pourtant ne sont pas tous convaincus, loin de là, Rosalie Lafarge.
On voulait plus de souplesse, c'était bien parti pour, mais le compte n'y est plus. Voilà ce que dit en substance l'Association des maires de France. Elle dénonce la suppression par les députés de la commission des lois de l'ensemble des dispositions qui introduisaient justement de la souplesse dans l'organisation des compétences entre les communes et les intercommunalités, notamment en matière d'eau et d'assainissement. L'AMF, là-dessus, a l'impression de s'être un peu fait avoir par le gouvernement et sa majorité. Certes, on remet le maire au cœur de la République, mais uniquement sur un plan formel. Regrette un cadre de l'association. Sur le plan des compétences, le compte n'y est pas, selon lui. Il dénonce une occasion gâchée. Et les élus, en tout cas ceux de l'AMF, ont bien l'intention de le dire lors de leur congrès. Il s'ouvre aujourd'hui à Paris et attend la visite demain de celui qui l'avait boudé l'an dernier, Emmanuel Macron.
Rosalie Lafarge.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel. La tension est à son comble à Hong Kong ce matin, notamment dans et autour du campus de l'école polytechnique encerclé par les forces de l'ordre.
De nombreux étudiants et militants pro-démocratie y sont réfugiés. Et d'après la télévision publique RTHK, la police a arrêté dans la matinée des dizaines de manifestants qui cherchaient à s'enfuir après les affrontements du week-end au cours duquel un policier a été blessé par une flèche. La police de Hong Kong fait savoir qu'elle envisage l'utilisation de balles réelles contre les manifestants. Hong Kong, où par ailleurs ce matin, la loi interdisant la port du masque a été jugée anticonstitutionnelle par la Haute Cour. Une victoire symbolique pour les militants pro-démocratie. En Bolivie, la présidente par intérim, Jeanine Añez, a voulu rassurer hier en annonçant vouloir convoquer, je cite, « très vite des élections transparentes pour tenter de mettre fin à l'instabilité dans le pays ». Depuis vendredi, 9 personnes ont été tuées lors d'affrontements violents. L'ancien président Evo Morales, réfugié au Mexique, parle de possible crime contre l'humanité. Alors que le gouvernement vient d'inciter l'armée à intervenir lors des manifestations, tout en l'exonérant de poursuites pénales, ce qui a suscité un véritable tollé. À La Paz, Alice Campagnol.
Permis de tuer, c'est ainsi que les opposants de Jeanine Añez et de son gouvernement ont présenté le décret suprême 4078. Il y est spécifié que les personnels des forces armées travaillant actuellement au maintien de l'ordre seront exemptés de responsabilité pénale tant qu'ils agissent de façon proportionnée et en cas d'absolue nécessité ou de légitime défense. La publication de ce décret a provoqué un tollé vendredi dernier, notamment chez les organisations de défense des droits de l'homme en commençant par la Commission interaméricaine des droits humains. Pour l'organisation, ce décret est grave, il stimulerait la répression violente et il contreviendrait à l'obligation qu'a l'État d'enquêter et de juger les violations des droits fondamentaux des citoyens. Et pour la seule journée de vendredi, jour même de publication du décret, ce sont 9 manifestants qui auraient été tués par les forces de l'ordre dans la ville de Sakaba, secouée par de violents affrontements depuis plusieurs jours, des milliers de personnes réclamant le retour d'Evo Morales et la démission du gouvernement intérimaire. Pour l'actuel ministre de la Présidence, ce décret n'est pas une carte blanche pour tuer, mais un texte basé légalement sur la Constitution et sur la loi qui encadre les forces armées. Si les protestations ont perdu en intensité ce week-end, personne ne sait à quoi s'attendre pour les jours à venir.
Alice Campagnol à La Paz. Au Chili, le président Sébastien Piñera a condamné pour la première fois cette nuit les violences commises par la police depuis le début du mouvement de contestation sociale. C'était il y a un mois. Il y a eu un recours excessif à la force, a-t-il déclaré. En Irak, l'appel à la grève générale a été entendu hier. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues, des manifestants qui réclament toujours en Irak un changement de régime. Stadia, le nouveau service de jeux vidéo à distance en streaming via le cloud de Google, sera disponible à partir de demain en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Très attendu par les gamers, cette plateforme de streaming permettra notamment de passer d'un écran à un autre pour un même jeu, ce qui nécessitera d'énormes ressources en bande passante et des serveurs toujours plus gourmands en énergie. Selon Frédéric Bordage, expert indépendant en numérique responsable, une telle plateforme, c'est certain, aura un impact très important sur l'environnement.
Quand on joue une heure, on va avoir un impact sur les milieux aquatiques. Pour la simple raison que pour pouvoir jouer, par exemple, une heure à un jeu vidéo en ligne, en streaming, tel que celui de Google Stadia, eh bien, il va falloir fabriquer les équipements. Et dans les processus à la fois d'extraction des minerais, on va polluer les milieux aquatiques, favoriser, par exemple, la prolifération d'un certain nombre d'algues qui vont asphyxier les écosystèmes aquatiques. C'est le phénomène d'eutrophisation. Tout ça va se traduire par la disparition des écosystèmes aquatiques. Malheureusement, le développement d'une énième industrie qui aura des impacts négatifs sur l'environnement, puisqu'en rajoutant des heures de jeux vidéo, on va forcément rajouter des impacts environnementaux. Et là, la force du streaming, d'un point de vue économique, c'est de pouvoir toucher n'importe qui, n'importe où. Et donc, c'est de permettre à n'importe qui, n'importe où de jouer. On peut imaginer que ça va augmenter vraiment de façon considérable les impacts environnementaux. On va en plus ajouter la fabrication d'électricité. Par rapport aux enjeux environnementaux qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas parler de retour en arrière, mais c'est pas une bonne nouvelle sur le fond.
Frédéric Bordage répondait à Lina Tagui. Un temps une nouvelle fois maussade aujourd'hui avec du brouillard, des pluies faibles mais fréquentes et de la neige en plaine sur le Grand Est et puis aussi sur les Alpes. Au fil des heures, les précipitations faibliront mais les nuages resteront. Température maximale comprise entre 3 et 7 degrés du nord-est au centre jusqu'à 10 degrés ailleurs.